Chapitre 37. Avec les derniers dépôts, le compte bancaire du souvenir patriotique annonçait un solde positif de 176 000 francs. Albert fit un rapide calcul. Il fallait jouer fin, ne pas organiser de sortie trop massive, mais il y avait un tel volume d'affaires dans cette banque qu'il n'était pas rare qu'on échangeât 7 ou 8 millions dans la journée et que les caisses, alimentées par un nombre impressionnant de commerces et de grands magasins parisiens, voient quotidiennement passer des flux de 4 à 500 000 francs, parfois davantage. Depuis la fin juin, Albert ne vivait plus dans sa propre peau. Le matin, entre deux nausées, et déjà aussi épuisé qu'après l'attaque d'une position allemande, il se rendait au travail dans un état proche de l'implosion. Il n'aurait pas été surpris que, sur le parvis de l'établissement, la justice ait installé dans la nuit un échafaud pour le guillotiner sans procès devant le personnel réuni au grand complet, M. Péricourt en tête. Toute la journée, il évoluait dans une torpeur brumeuse. Les voix lui parvenaient avec un énorme retard. Quand on lui parlait, il fallait traverser son mur d'angoisse. Albert vous regardait comme si vous l'aviez percuté avec le jet d'une lance à incendie. « Hein, quoi ?» étaient toujours ses premiers mots. On n'y faisait plus attention, on le connaissait. Dans le cours de la matinée, il déposait sur le compte du souvenir patriotique les règlements parvenus la veille et de la vapeur bouillonnante qui lui noyait le cerveau, il tentait d'extraire le montant de ce qu'il allait prélever en espèces. Puis, lorsque commençait le roulement des employés à chaque caisse pour la pause de midi, il profitait de chaque passage à un guichet pour effectuer ses débits en signant d'une main fébrile Jules d'Épremont comme si le client s'était présenté lui-même à la banque à l'heure du déjeuner. Au fur et à mesure des prélèvements, il fourrait les billets dans sa sacoche qui enflait jusqu'à être, en début d'après-midi, 4 fois plus ventru que le matin. À 2 reprises le soir, en se dirigeant vers la porte à tambour et en s'entendant hélé par un collègue ou parce qu'il avait cru percevoir de la suspicion dans le regard d'un client, il avait commencé à pisser dans son pantalon et avait dû héler un taxi pour rentrer à la maison. Les autres fois, il passait la tête sur le trottoir avant de sortir, histoire de vérifier que l'échafaud absent le matin n'avait pas été dressé dans la journée devant la station de métro, sait-on jamais. Dans son cartable, qui servait à la plupart des employés à transporter leur déjeuner, Albert rapportait ce soir-là 99 000 francs en grosses coupures. Pourquoi pas 100 000 ? Une question de superstition, penserez-vous ? Eh bien, pas du tout. Une affaire d'élégance. C'était de l'esthétique, bon, de l'esthétique de comptable, évidemment, il faut relativiser, mais de l'esthétique tout de même, parce que, avec cette somme, le souvenir patriotique pouvait s'enorgueillir d'avoir escroqué 1 111 000 francs. Pour Albert, c'était joli tous ces 1 qui se suivaient. Le minimum fixé par Édouard était donc très largement dépassé, et à titre plus personnel, c'était, pour Albert, un jour de victoire. Nous étions le samedi 10 juillet. Il avait sollicité de sa direction un congé exceptionnel de 4 jours à l'occasion de la fête nationale, et comme, à l'heure de la réouverture de la banque, le 15 juillet, il serait normalement sur le bateau en route pour Tripoli, ce jour-là était son dernier à la banque. Comme lors de l'armistice de 1918, sortir vivant de cette aventure le laissait pantois. Un autre que lui se serait cru immortel, mais Albert n'arrivait pas à s'imaginer une seconde fois survivant. Le moment de l'embarquement pour les colonies avait beau approcher, il n'y croyait pas vraiment tout à fait. « À la semaine prochaine, monsieur Maillard. Hein, quoi bonsoir. » Puisqu'il était encore vivant et que le million emblématique était atteint et même dépassé, Albert se demandait s'il ne serait pas judicieux de changer les billets de train et de bateau et d'anticiper le départ. Mais sur cette question, il était plus déchiré que sur le reste. Partir, oui, très vite, tout de suite même, si ça avait été possible. Mais Pauline, 100 fois, il avait essayé de lui parler, autant de fois il avait renoncé. Pauline était merveilleuse, du satin dehors et du velours dedans et savante à un point. Mais Elle était de ces filles du peuple avec lesquelles ont fait les bourgeoises, le mariage en blanc, l'appartement, les enfants, trois, peut-être quatre, c'était là tout l'horizon. Si cela n'avait tenu qu'à lui, une petite vie tranquille avec Pauline et des enfants, quatre pourquoi pas, Albert aurait été d'accord, il aurait même bien aimé garder son emploi à la banque. Mais maintenant qu'il était un escroc patenté et bientôt, si Dieu le voulait, de niveau international, cette perspective s'évanouissait, et avec elle, Pauline, le mariage, les enfants, l'appartement et la carrière bancaire. Il ne restait qu'une solution, tout lui avouer, la décider à partir avec lui dans 3 jours, avec 1 million de francs en grosses coupures dans une valise, un copain au visage ouvert en deux comme une pastèque, et la moitié de la police française à ses trousses. Autant dire, impossible. Ou partir seul. Quant à demander conseil à Édouard, c'était parler à un mur. Finalement, même s'il l'aimait infiniment et pour toutes sortes de raisons contradictoires, Albert trouvait Édouard assez égoïste. Il passait le voir tous les 2 jours, entre la mise à l'abri des fonds et les retrouvailles avec Pauline. L'appartement de l'impasse Perse était maintenant déserté. Albert n'avait pas jugé prudent d'y laisser la fortune sur laquelle leur avenir reposait. Il avait cherché une solution. Il aurait pu louer un coffre dans une banque, mais il n'avait pas confiance. Il avait préféré la consigne de la gare Saint-Lazare. Chaque soir, il retirait sa valise, s'installait dans les toilettes du buffet pour y mettre le revenu de la journée, puis il la rendait à l'employé. Il passait pour un représentant de commerce, en gaine et corset, avait-il déclaré. Il n'avait pas trouvé autre chose. Les employés lui adressaient des œillades complices auxquelles il répondait par un petit signe modeste qui, évidemment, accroissait encore sa réputation. Pour le cas où il aurait fallu détaler à toute vitesse, Albert avait également déposé un immense carton à chapeau qui contenait le cadre avec la tête de cheval dessinée par Édouard, dont il n'avait jamais réparé la vitre, et, par-dessus, enveloppé dans du papier de soie, le masque du cheval. Obligé de partir précipitamment, il savait qu'il laisserait plutôt la valise de billets que ce carton. Après la consigne de la gare et avant d'aller retrouver Pauline, Albert se rendait au Lutetia, ce qui le mettait dans un état effroyable, pour passer inaperçu un palace parisien. « Mais ne t'inquiète pas !» avait écrit Édouard. « Plus c'est visible, moins on le voit. Tiens, regarde, Jules Despremont. Personne ne l'a jamais vu et pourtant, tout le monde lui fait confiance. » Il avait éclaté de l'un de ces rires chevalins qui vous faisaient dresser les cheveux sur la tête. Albert avait d'abord compté les semaines, puis les jours, mais maintenant, depuis qu'Édouard, sous son vrai faux nom d'Eugène Larivière, était descendu commettre ses excentricités dans un grand hôtel, il comptait les heures et même les minutes qui les séparaient du départ, fixées le 14 juillet par le train quittant Paris pour Marseille à 13 h, et permettant d'attraper le lendemain le SS d'Artagnan de la Compagnie des messageries maritimes à destination de Tripoli. 2 billets. Ce soir-là, ces dernières minutes dans le ventre de la banque furent aussi difficiles à vivre qu'un accouchement, chaque pas lui coûta, puis, enfin, il fut dehors. Devait-il réellement y croire? Le temps était beau, sa sacoche lourde, à droite pas d'échafaud, à gauche, pas de compagnie de gendarmerie, rien d'autre que, sur le trottoir opposé, la petite silhouette mince de Louise. Cette vision lui fit un choc, un peu comme lorsque vous croisez dans la rue un commerçant que vous n'avez vu que derrière son étal, vous le reconnaissez mais vous sentez que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Louise n'était jamais venue le chercher. Il se demanda, en traversant précipitamment la rue, de quelle manière elle avait trouvé l'adresse de la banque, mais cette petite passait son temps à écouter, elle devait même en savoir long sur leurs affaires. « C'est Édouard, » dit-elle, « il faut venir tout de suite. »« Quoi, Édouard, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais Louise ne répondit pas, elle avait levé la main et arrêté un taxi, hôtel Lutetia. Dans la voiture, Albert posa sa sacoche entre ses pieds, Louise regardait droit devant elle, comme si elle conduisait le taxi. Une chance pour Albert, Pauline, de service ce soir-là finira tard, et comme elle reprenait le lendemain de bonne heure, elle dormirait chez elle, enfin pour une domestique, ça signifiait chez les autres. « Mais enfin !» demanda Albert au bout d'un moment. « Qu'est-ce qu'il a, Ed ?» Il surprit le regard du chauffeur dans le rétroviseur et se reprit précipitamment. « Qu'est-ce qu'il a, Eugène ?» Le visage de Louise était voilé, comme celui des mères ou des épouses angoissées. Elle se tourna vers lui, écarta les mains. Elle avait les yeux mouillés. On dirait qu'il est mort. Albert et Louise traversèrent le hall du Lutetia d'un pas qu'ils espéraient normal. Rien de plus voyant. Le liftier fit semblant de ne pas remarquer leur nervosité. Il était jeune, mais déjà très professionnel. Ils trouvèrent Édouard par terre, le dos appuyé contre son lit, les jambes allongées. Très mal en point, mais pas mort. Louise réagit avec son sang-froid habituel. La chambre empestait le vomi. Elle ouvrit une à une toutes les fenêtres et fabriqua des serpillières avec tout ce qu'elle trouva de serviettes dans la salle de bain. Albert se mit à genoux et se pencha vers son ami. « Eh ben alors, mon vieux, ça va pas ?» Édouard dodelinait de la tête, ouvrait et fermait les yeux spasmodiquement. Il ne portait pas de masque, la béance de son visage exhalait une odeur putride si intense qu'elle contraignit Albert à reculer. Il prit une longue inspiration, puis saisit son camarade sous les aisselles et parvint à le coucher sur le lit. Un type qui n'a pas de bouche, pas de mâchoire, rien qu'un trou et les dents du haut, vous savez pas comment faire pour lui tapoter les joues. Albert obligea Édouard à écarquiller les yeux. « Tu m'entends » répétait-il. « Dis, tu m'entends ?» Et comme il n'obtenait aucune réaction, il passa directement à la manière forte. Il se leva, fila à la salle de bain et remplit un grand verre d'eau. Lorsqu'il se retourna pour revenir à la chambre, il fut tellement surpris qu'il lâcha le verre et, pris d'un malaise, dut s'asseoir par terre. Accroché au dos de la porte, comme une robe de chambre à une patère, un masque d'homme, celui d'Édouard Péricourt, le vrai Édouard, celui d'avant, parfaitement reproduit, il ne manquait que les yeux. Albert perdit la conscience de l'endroit où il se trouvait. Il était dans la tranchée, à quelques pas des marches de bois, harnaché pour l'attaque, tous les autres gars sont là, devant et derrière lui, tendus comme des arcs, prêts à bondir vers la côte 113. Là-bas, le lieutenant Pradel surveille les lignes ennemies à la jumelle. Devant lui, il y a Berry, et devant Berry, ce type qu'il n'a jamais beaucoup fréquenté, qui se retourne, Péricourt, qui lui sourit, un sourire lumineux. Albert lui trouve l'air d'un môme qui va faire une connerie. Il n'a pas le temps de lui répondre. Péricourt s'est déjà retourné. C'est exactement ce visage qu'il avait ce soir-là, devant lui, moins le sourire. Albert en resta tétanisé. Il ne l'avait jamais revu, forcément, sauf en rêve. Et il était là, émergeant de la porte comme si Édouard allait apparaître tout entier, tel un fantôme. La chaîne de toutes les images se déclencha. Les deux soldats tués d'une balle dans le dos, l'attaque de la côte 113, le lieutenant Pradel qui le tamponne brutalement à l'épaule, le trou d'obus, la marée de terre qui vient le recouvrir. Albert hurla, Louise apparut à la porte, affolée. Il s'ébroua, fit couler de l'eau, s'en frotta le visage, remplit de nouveau le verre et sans plus regarder le masque d'Édouard repassa dans la chambre et alla le déverser entièrement d'un seul coup dans la gorge de son camarade qui, aussitôt, se redressa sur ses coudes, se mit à tousser comme un damné, comme lui-même autrefois avait dû tousser en revenant à la vie. Albert lui pencha le torse en avant pour le cas où il vomirait encore, mais non, la quinte de toux mit un long moment avant de s'éteindre. Édouard avait repris ses esprits. Il était épuisé, si l'on en jugeait par ses yeux cernés et l'abandon de tout son corps qui plongea de nouveau dans un état second. Albert écouta sa respiration, qu'il trouva normale. Sans souci de la présence de Louise, il déshabilla son camarade et le coucha dans les draps. Le lit était si large qu'il put s'asseoir près de lui, d'un côté sur un oreiller, Louise de l'autre côté. Ils restèrent tous deux posés là comme des cerfs livres, chacun tenait une main d'Édouard, qui s'endormit avec un inquiétant bruit de gorge. D'où ils étaient, Louise et Albert pouvaient voir, sur la grande table ronde au milieu de la pièce, la longue seringue fine, le citron coupé en deux, et sur une feuille, des résidus de poudre marron, comme de la terre, le briquet à amadou, dont l'étoupe recourbée et nouée avait l'air d'une virgule sous un mot. Au pied de la table, le garrot en caoutchouc. Ils restèrent sans parler, perdus dans leurs pensées. Albert n'était pas très savant en la matière, mais le produit ressemblait fort à ce qu'on lui avait proposé naguère lorsqu'il cherchait de la morphine. C'était l'étape d'après, l'héroïne. Pour se la procurer, Édouard n'avait même pas eu besoin d'intermédiaire. Curieusement, Albert se demanda à quoi je sers alors, comme s'il regrettait de n'avoir pas eu, en plus de tout, cette affaire-là à gérer. Depuis quand Édouard prenait-il de l'héroïne? Albert se trouvait dans la situation de ses parents dépassés qui n'ont rien vu venir et se trouvent soudain devant le fait accompli, mais trop tard, à 4 jours du départ. Qu'est-ce que cela changeait d'ailleurs, 4 jours avant ou après? Vous allez partir? Le petit esprit de Louise avait suivi le même trajet. Elle avait posé la question d'une voix pensive et lointaine. Albert répondit par un silence. C'était oui. Quand ? Demanda-t-elle, toujours sans le regarder. Albert ne répondit pas. Ça voulait dire bientôt. Louise se tourna alors vers Édouard, et de son index tendu, elle fit ce qu'elle avait fait le premier jour. Elle suivit, rêveusement, la plaie béante, les chairs boursouflées, et rougeoyante comme une muqueuse à ciel ouvert, puis elle se leva, alla enfiler son manteau, revint vers le lit du côté d'Albert cette fois, se pencha et l'embrassa sur la joue, longuement. « Tu viendras me dire au revoir ?» De la tête, Albert répondit « Oui, bien sûr !» Ça voulait dire non. Louise fit signe qu'elle comprenait. Elle l'embrassa de nouveau et quitta la chambre. Son absence provoqua un grand trou d'air, comme on en connaît en aéroplane, paraît-il.